RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Grèce, sur l'île de Lesbos, qui est devenue une sorte de prison à ciel ouvert pour une partie des réfugiés et migrants. Depuis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie le 20 mars dernier, ceux qui débarquent sur les côtes des îles de l'Est de la mer Égée risquent d'être renvoyés de l'autre côté. Alors, seule issue pour eux, demander l'asile. Mais l'attente est longue dans les centres d'accueil fermés ou hotspots. Sur l'ensemble des îles, on dénombre plus de 14 000 réfugiés. Réfugiés pour près de la moitié des places. À Lesbos, l'attente des réfugiés, c'est un grand reportage signé Charlotte Stevenard.
Moi je suis Congolais. Je suis au Congo.
Congo-Kinshasa?
Congo-Kinshasa, oui. Je peux dire mon nom, c'est Fiston.
Cet ingénieur en électronique de 30 ans préfère utiliser un pseudonyme. Il ne veut pas que sa femme et sa fille sachent dans quelles conditions il vit depuis un mois. Sorti par un trou dans le grillage, il fait la visite du centre de rétention de Moria depuis l'extérieur.
Moi, je vais là en bas. Maintenant, je vais sur les tentes là des HR blanches que vous voyez. Ici, il y a des Érythréens qui vivent ici. D'autres vivent ici en bas. Puisqu'il y a beaucoup d'Érythréens aussi qui ont perdu beaucoup leurs tentes. Ils se sont regroupés maintenant ici. Auparavant, c'était des tentes de 12 personnes. Maintenant, il y a plus de 20 ou 25 personnes, plus ou moins. C'est un peu ça.
Et là-dedans, c'est des familles ou c'est des dents préfabriquées là?
Non, ce sont des amis qui se sont regroupés. Il y a plusieurs nationalités là-dedans. Il y a peut-être des Camerounais, des Congolais. Le secteur que vous voyez, ce sont des Africains qui vivent ici. Puisqu'ils se sont regroupés en termes de continents, quoi. Il y a des endroits où des Africains, il y a des endroits où des Afghans, des Érythréens, des Nigériens, des Syriens, tout ça.
Il poursuit la visite en remontant vers le haut du camp.
Vous sentez vraiment, c'est du calvaire, quoi. De l'autre côté là-bas, ce sont des toilettes. Hein.
Ce grand bâtiment carré.
Oui, c'est des toilettes.
Et c'est comment à l'intérieur?
Maintenant, c'est l'eau cool. Hein. Puisque c'est des adjuteurs, non? Maintenant, l'eau cool. Puisque quand on était là, l'eau ne coulait pas. Tu as remarqué les gens? Ils étaient en train d'entrer dans la forêt pour faire des besoins. Maintenant, tout le monde est là.
Tous dans ce camp décrivent des conditions très difficiles. La nourriture pas toujours suffisante, peu d'espace pour dormir, mais aussi l'insécurité. Patricia, une Camerounaise de 23 ans, n'est pas rassurée, notamment le dimanche, où il y a moins de surveillance, dit-elle.
Bon, tous les dimanches, je peux dire, il y a les hommes, il y a peut-être deux. Parce que dimanche, il n'y a pratiquement personne. La sécurité, non, il n'y en a pas.
C'est plus dangereux pour les femmes ces jours-là?
Bien dangereux, les femmes. C'est bien dangereux. La règle que nous on a pris, c'est quand tout arrive, on ne sort plus. Le dimanche, c'est grave parce que tu peux dire le dimanche, tous les jours, il y a bagarre ici. Et nous, quand ça se passe comme ça, nos frères africains, c'est nous qui avons ouvert toutes ces courses-là. Les portes de sortie, quand il y a un problème, bon, ils projettent les femmes et consolent les enfants. On fuit pour sortir, pour aller de l'autre côté de la route là-bas, ou pour se cacher même dans les forêts et consolent. Ouais.
Parfois cela dégénère. Il y a deux jours, une centaine de tentes sont parties en fumée. Fiston raconte ce qu'il s'est passé.
Nous ne sommes pas écoutés. Les gens vivent ici dans des conditions difficiles. Les toilettes ne sont mal entretenues. Les gens vivent dans des tentes. Les gens pensaient que peut-être dans les mois à venir, l'hiver va nous surprendre. On a pris l'option aussi. Les gens ont commencé à revendiquer, de faire des cris, tout ça. On a même pris l'option de rencontrer le chef du centre. Le chef du centre nous a parlé, mais les gens ont dit nous voulons des décisions dans l'immédiat. Maintenant, vers le soir, les gens se sont dit cette fois-ci, on ne va pas manger. Nous devons rester comme ça pour monter notre ras-le-bol qu'on n'est pas ici pour manger, tout ça. Maintenant, les Afghans, ils ont passé, là où on prend de la nourriture, Mais les autres Africains et les autres nationalités, les Syriens, les Irakiens, n'étaient pas d'accord pour ça. On a commencé à renverser la nourriture vers les bas. Ça crée un peu de désordre. Maintenant, on prend l'option, les femmes peuvent manger avec les enfants, mais ils devaient rester de l'autre côté. S'ils mangent, ils sortent. Mais certains Africains n'étaient pas d'accord. C'est par là que tout a commencé à dégénérer. Puisque les Africains ont dit, nous avons pris l'option de ne pas manger. Comment est-ce que vous voulez manger?
Le conflit s'est transformé en bataille rangée et un incendie s'est déclaré. La plupart des 4000 réfugiés et migrants ont fui et ont passé la nuit dehors. Le matin, certains ont été ramenés par la police. D'autres, comme Fiston, ont choisi de revenir par eux-mêmes.
C'est tout à fait normal de revenir puisque c'est un île. Tu ne peux pas fuir. Tu peux t'échapper ici, dans cet endroit, mais tu ne vas pas sortir. Mais de toutes les façons, tu vas toujours revenir puisqu'il n'y a pas possibilité de sortir parce que c'est lui, c'est touré de la mer, non? Voilà, c'est ça, quoi. C'est comme une prison à ciel ouvert. Prison vraiment à ciel ouvert.
Au cours de la discussion, un jeune homme congolais, lui aussi, intervient.
Moi, je fais ici déjà 3 mois. Depuis que j'étais ici, non, je vis rien en change. Mais il y a des gens qui ont tenté à partir. Et tous, il y a une prison fermée ici encore. Si on t'attrape, même si à l'aéroport, même si au port, on va encore t'amener encore aux prisons.
Là, c'est... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens là, qui attendaient au port à côté des camions.
Il y a un conteneur, il prend des conteneurs. Parce qu'il ne veut pas encore d'ici, on est déjà fatigués d'ici. Depuis qu'on était là, il y a des gens qui ont fait 7 mois, 6 mois. Il y a des gens qui croient comme si nous sommes venus ici pour manger. Non, moi je ne suis pas venu ici pour manger. Nous sommes des étudiants. Nous, on a un problème sur notre pays. On a un problème, c'est pour cela qu'on s'est arrivé ici.
Blanchard, un journaliste congolais originaire de Kinshasa, se dit menacé de mort dans son pays. Âgé de 26 ans, il aurait publié des reportages qui ne plaisaient pas au gouvernement. Au bout de 25 jours, la limite légale pour détenir quelqu'un sans raison, il a obtenu un document qui lui permet de circuler sur l'île seulement. Il attend que sa demande d'asile soit examinée depuis 5 mois et demi.
Mais ce qu'on a besoin juste de nous faire sortir ou bien de nous faire passer l'interview. Jusque là, on n'a jamais passé l'interview. On connaît pas nos sorts, c'est ça. Si moi je connais pas, c'est qui on va vous dire. Là où on part, on risque de faire un an ici. Là, les gens ici commencent à craquer, ça rend fou. Parce que moi, comme je suis là, je suis mal à l'aise. Je suis quelqu'un qui est fermé pendant 6 mois. Il doit être fou, hein. Il va commencer à nous dire n'importe quoi parce qu'il ne connaît pas comment il va s'en sortir. Et des gens commencent à se suicider. Tu verras des gens qui font des crises, tout ça, à cause de ça.
Comme tous, il a aussi la crainte de voir sa demande d'asile refusée et d'être renvoyé en Turquie dans le cadre de l'accord passé avec l'Union européenne. Pour Fiston, il est temps que des décisions soient prises.
Si on ne prend pas une décision beaucoup plus ferme, soit de déporter certains ou soit de donner la vie de quitter à d'autres, je pense que la situation sera beaucoup plus catastrophique que ce que nous vivons maintenant. Puisque je pense qu'il y a des gens qui se préparent moralement, mentalement, pour créer un peu des incidences dans l'avenir, quoi. Je pense que c'est peut-être le premier, mais peut-être il y aura encore d'autres situation qui sera peut-être beaucoup plus que ça. C'est pour cela qu'on dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Donc comme il n'y a pas la prévention, je ne sais pas si les gens tentent que les gens puissent mourir ici pour prendre des décisions. C'est mieux de prendre des décisions maintenant avant qu'il y ait des morts.
Dans le village de Moria, juste à côté du centre de rétention, les habitants, eux aussi, ont commencé à ressentir les effets des mauvaises conditions dans lesquelles réfugiés et migrants vivent. Nikos Trakelis, le président de la communauté locale de Moria, reçoit régulièrement ce type d'appel.
Ils sont entrés, ils ont ouvert la porte, ils ont cherché à manger, ils ont ouvert le frigo, voilà. Elle s'est mise en sécurité, elle a appelé la police et c'est comme ça toute la journée.
Dans son bureau, il explique que le problème est à double sens.
Tout ça, je le répète encore, si les conditions s'améliorent pour eux, ça va améliorer le quotidien de la société locale. C'est-à-dire qu'ils ne voleront plus, ils n'allumeront pas de feu, ça ne créera pas de problème. Et il y a aussi les égouts qui sont déversés dans la rivière. Tout ce qui se passe, c'est un poids pour eux qui sont emprisonnés ici et pour nous. Nous, nous sommes un village ici. Ce n'est pas une ville. Les uns connaissent les autres, c'est une région agricole. Chacun va travailler dans son champ et il ne peut pas ramasser les olives pour une raison A ou B.
Le feu qui a pris à Moria a créé quelques dégâts dans les champs d'oliviers aux alentours. Alors qu'au village, les tensions montent, Nikos Trakelis craint aussi les conséquences politiques.
Écoutez, en ce moment, en effet, dans les conditions actuelles et avec les problèmes que connaît la société locale, l'extrême droite a saisi sa chance et créé des turbulences. Je ne peux pas dire que notre communauté locale et notre île soient d'extrême droite, mais il existe des petits groupes organisés qui s'appuient sur la douleur des gens. Et cela encourage la montée de l'extrême droite. Si quelqu'un perd son champ ou autre, on perd son salaire. Il va être tenté par la colère et c'est comme ça, je pense, que le parti d'extrême droite monte.
Pour Nikos Trakelis, alors que le nombre de personnes qui arrivent sur l'île est supérieur à celui des départs, il n'y a qu'une solution, accélérer la procédure d'asile. À Athènes, Maria Stavropoulou, la directrice du service d'asile, rappelle les conditions dans lesquelles elle a fait passer le personnel sur les îles de 10 personnes à une soixantaine.
Quand l'accord entre l'Union européenne et la Turquie est entré en vigueur, tous ceux qui sont arrivés, dans les jours qui ont suivi, et ils étaient plusieurs milliers, tous ont fait une demande de protection internationale. Mais le service d'asile, naturellement, n'avait pas le personnel nécessaire. Un exemple, en 2015, le service d'asile grec a enregistré 14 000 demandes en un an. C'était sa capacité maximale. Et ces dernières années, les demandes étaient toujours inférieures à ça. Tout à coup, ces 8 à 9 000 demandes ont été faites en 10 jours. C'est donc complètement naturel que jusqu'à ce qu'ils construisent les bureaux, que l'on trouve l'encadrement, les traducteurs, que ça prenne donc un an pendant lequel les gens ont attendu et attendent encore que leurs demandes soient examinées.
Et surtout pour elle, il faut désormais que l'Union européenne envoie tous les renforts qu'elle avait promis, 400 personnes au total. Au moment où ce reportage a été tourné, seuls 26 spécialistes du Bureau européen d'appui en matière d'asile étaient présents, dit-elle.
Il est important que les experts arrivent, c'est très important. Nous aussi, nous avons des gens sur les îles et nous allons en avoir plus. Mais ils sont tous nouveaux. Nous avons besoin de l'aide des gens qui sont plus expérimentés. Tout le service d'asile est neuf. Nous n'existons que depuis 3 ans. Il y a des services d'asile ailleurs en Europe qui fonctionnent depuis 50 ans. Ils ont une capacité complètement différente de la nôtre.
Dans son bureau au Parlement, Yorgos Kiritsis, le porte-parole de l'organe de gestion de la crise migratoire, confirme ce problème.
On attendait que plusieurs centaines de personnels spécialisés dans l'asile, principalement des traducteurs et des interprètes, arrivent d'Europe. Combien de gens en Grèce parlent arabe ou pachtoun ? Nous n'avons pas tous ces gens. Malheureusement, le reste de l'Europe n'a pas envoyé ce personnel et il y a une limite objective à ce que peut faire un petit pays.
Dans Concernant les plans du gouvernement pour trouver une solution pour les 5 îles où se trouvent les hotspots, c'est le même discours depuis plusieurs mois. Améliorer les conditions d'accueil et accélérer les demandes d'asile donc. Mais dernièrement, les autorités parlent aussi de créer de nouvelles places sur les îles, une idée qui risque d'être difficile à faire passer. À Lesbos, l'attente des réfugiés, un grand reportage de Charlotte Stievenard, réalisation Souheil Kelly.
Bonjour Charlotte Stievenard.
Bonjour.
Dans le centre de rétention de Moria, sur l'île de Lesbos, il y a 4000 personnes pour 2000 places. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Eh bien, tout d'abord, depuis l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, le nombre d'arrivées a beaucoup réduit. On ne parle plus de milliers par jour comme l'année dernière, mais d'une centaine en moyenne. Mais c'est tout de même trop par rapport au départ. Les centres de transit se sont donc transformés peu à peu en centres de rétention.
Et désormais, les réfugiés et les migrants doivent attendre longtemps avant de connaître leur sort.
Oui, tout dépend de la procédure d'asile. Les cas des Syriens sont traités en premier par le service d'asile, qui doit d'abord étudier si la Turquie est un pays sûr pour eux, ce qui permet de les renvoyer. Selon le service d'asile grec, il y a eu 830 décisions de ce type, soit un tiers des demandes de Syriens. Pour les autres nationalités, on passe cette étape et on étudie directement leur demande d'asile, car les services grecs estiment que leurs chances d'obtenir l'asile en Turquie sont beaucoup plus minces que pour les Syriens. Ils renvoient donc ceux qui ont vu leur demande d'asile rejetée en fin de procédure ou ceux qui n'ont pas voulu en déposer.
Et depuis le 20 mars dernier, Charlotte Stievenard, il y a eu peu de retours.
Oui, en tout, 509 personnes seulement ont été renvoyées en Turquie dans le cadre de l'accord avec l'Union européenne. Parmi les nationalités, il y a donc des Pakistanais, des Algériens, des Afghans, mais aussi quelques Syriens découragés d'attendre. Cet été, il y a eu aussi le coup d'État en Turquie qui a créé un peu d'incertitude. Mais pour Yorgos Kiritsis, le porte-parole de l'organe de gestion de la crise migratoire, l'impact a été faible et les retours ont repris fin août.
Alors on peut se demander du coup pourquoi les réfugiés et les migrants tentent tout de même la traversée ?
Alors tout d'abord, certains n'ont tout simplement pas le choix, ils n'ont effectivement aucun avenir en Turquie. Il y a aussi le fait que les routes illégales pour quitter l'île commencent à être plus connues. Certains tentent de passer par l'aéroport avec des faux papiers, d'autres par le port. Là, il y a plus de contrôle à l'entrée des ferries pour Athènes. Alors ils tentent de se cacher dans les conteneurs à l'arrière des camions qui embarquent, des scènes qui rappellent celles que l'on connaît à Calais en France.
Et le gouvernement parle du manque d'aide de l'Union européenne.
Oui, mais la Commission européenne explique qu'en un an et demi, elle a alloué 352 millions d'euros d'assistance d'urgence à la Grèce et aux organisations internationales qui l'aident sur son sol. Un chiffre qui vient s'ajouter aux 509 millions d'euros qui font partie des programmes déjà prévus pour les réfugiés. Ce qu'il manque, dans un premier temps, c'est donc moins l'argent, mais plutôt le personnel, comme on a pu le voir dans le reportage. En ce qui concerne les experts de l'asile qui arrivent au compte-gouttes, Maria Stavropoulou, la directrice du service grec, explique qu'il est difficile pour les pays européens de fournir ce personnel, car ils en ont eux aussi besoin.
À Lesbos, l'attente des réfugiés, votre grand reportage, Charlotte Stievenard, à réécouter sur RFI.fr et puis à retrouver aussi une série de reportages, une enquête d'Alice Posicki dans la jungle de Calais, dans le nord de la France. Enquête en 5 volets, toute cette semaine, avec les témoignages des exilés, des associations et des populations locales.
RFI.